Avec vous Thomas Coignac, bonsoir.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous.
Qui c'est les plus fortes? Évidemment, c'est les Américaines.
Et oui, les États-Unis championnes du monde de football. Elles ont battu les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde féminine, 2-0. La finale vient de se terminer à Lyon, devant plus de 50 000 spectateurs et devant Cédric Guillou. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Thomas.
Bon Cédric, on en est à la remise du trophée. Les Américaines ont remporté leur 4e Coupe du Monde en 8 éditions. Elles étaient bien les plus fortes ce soir.
Ah, elles étaient bien les plus fortes, comme depuis de très nombreuses années. 4e sacre mondial, effectivement, pour les États-Unis après 91, après 99, 2015. Il faudra donc ajouter 2019 au palmarès des Américaines qui ont remporté ce match 2-0 ce soir face aux Pays-Bas, avec un match qui s'est débloqué à l'heure de jeu avec l'ouverture du score de l'une des stars de l'équipe américaine, Megan Rapinoe, qui a marqué sur pénalty à la suite d'une faute de Van der Gracht dans la surface de réparation sur Alex Morgan. Et Stéphanie Frappard, la Française, qui était l'arbitre de cette partie, eh bien, a dû avoir recours à l'assistance vidéo pour donner ce pénalty. Ça a donc permis à Rapinoe de marquer son 6e but en 5 matchs. Et les Américaines, eh bien, ont fait le break à la 70e minute de jeu grâce à une action individuelle de Rose Level. Les USA qui ont eu l'occasion d'alourdir le score, mais sans parvenir à le faire. Mais elles sont championnes du monde. Et à l'instant même, voilà, elles brandissent le trophée de champion du monde au public de Lyon.
Et vous le disiez Cédric, c'est Megan Rapinoe qui a débloqué la situation, l'attaquante américaine qui a été vraiment la star de cette équipe, la guide sur et aussi en dehors du terrain pendant cette compétition.
Oui, ça a été la meilleure américaine hein, sur le terrain, la plus régulière, la plus décisive. En tout cas, elle a pris ses responsabilités sur la pelouse. Et puis, vous le disiez fort justement, elle a pris ses responsabilités en dehors du terrain. Megan Rapinoe qui avait eu des échanges hein, durant la compétition, notamment avec Donald Trump, le président américain, qui souhaite inviter les victorieuses de cette Coupe du Monde, les Américaines, à la Maison Blanche dans les prochaines semaines. Et d'ores et déjà, Megan Rapinoe a déclaré qu'elle n'irait pas à la Maison Blanche, qu'elle trouve le président américain égoïste et raciste. Voilà quelques tweets qu'elle a publiés récemment. Et Megan Rapinoe, c'est aussi celle qui a fait avancer les choses avec la Fédération américaine pour l'égalité des primes entre les hommes et les femmes au niveau du soccer, comme on l'appelle là-bas aux États-Unis. Megan Rapinoe qui a d'ailleurs reçu le soulier d'or tout à l'heure, Thomas, symbolisant la meilleure buteuse pour cette Coupe du Monde 2019.
Cédric Guillou, c'est un peu tôt pour faire les bilans, mais le stade de Lyon était encore bien rempli ce soir. Vous avez assisté à beaucoup de matchs de cette Coupe du Monde et on a vraiment le sentiment que le succès populaire était au rendez-vous.
Ah oui, c'était un vrai succès tout au long de cette compétition qui avait démarré le 7 juin dernier au Parc des Princes où on avait battu un record d'affluence pour un match pour l'équipe de France. Là, aujourd'hui, on a tout simplement eu le record d'affluence, sans doute plus de 58 000 personnes parce que le stade, il était à guichet fermé ce soir à Lyon avec des Américaines qui étaient en nombre, bien évidemment, dans les tribunes. Mais c'est vrai que globalement, ça aurait été un vrai succès populaire, cette Coupe du Monde féminine avec ce chiffre. 87% des stades auront été rempli durant cette Coupe du Monde avec donc le pic ce soir au stade de Lyon pour cette finale. Les Américaines qui ont gagné d'ailleurs hein, la bataille des tribunes mais également donc la bataille du terrain. Les Américaines qui restent, Thomas, les reines du football mondial féminin.
Merci Cédric, vous nous avez fait vivre cette Coupe du Monde pour Radio France. Deux mots de football toujours chez les hommes pour vous dire que c'est cette nuit la finale de la Copa América entre le Brésil qui joue à domicile et le Pérou. Coup d'envoi à 22h. Et puis suite des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En ce moment même, un partout entre Madagascar et la République démocratique du Congo, on joue la deuxième période. À 21h, l'Algérie affronte la Guinée.
On passe au Tour de France, la deuxième étape cet après-midi, un contre-la-montre par équipe autour de Bruxelles.
Oui, et le maillot jaune ne quitte pas les épaules du Néerlandais Mike Tennyson. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir Thomas.
Le maillot jaune qui ne quitte pas les épaules de Mike Tennyson parce que c'est son équipe, la Jumbo-Visma, qui a remporté cette étape contre la montre par équipe de 27 600
km. Vainqueur surprise de la première étape et désormais maître des horloges avec son équipe emmenée par l'ancien champion du monde du chrono Tony Martin avec ses coéquipiers. Mike Tennyson a donc conforté sa première place au classement général en se payant le luxe de l'emporter avec 20 secondes d'avance sur les Britanniques d'Ineos qui se voyaient déjà au sommet de l'affiche. De quoi rendre ivre de bonheur toute l'équipe, le maillot jaune en tête, Mike Tennyson.
Bah oui, je l'aime bien ce maillot. Encore un, même si ce n'était que pour 30 minutes aujourd'hui. Ce serait super de le garder encore un peu. Demain, je vais pouvoir en profiter plus longtemps. Le rêve continue, j'ai eu du mal à dormir la nuit dernière. J'espère que ce sera mieux ce soir, mais j'en profite.
Les Britanniques n'ont pas été les seuls déçus du jour. Les Belges de Deceuninck Quick-Step avec Julien Alaphilippe ont dû se contenter de la troisième place à 21 secondes. De quoi hypothéquer les chances du Français de porter le maillot jaune en cas de succès à Épernay demain. Julien Alaphilippe.
Ouais, je me sentais bien, ça allait. C'est pas vraiment ma spécialité, mais j'ai une équipe très forte. Et, comme j'ai dit, on était très motivés. On avait des bons rouleurs comme Kasper Asgreen qui a pu se faire plaisir en tirant des grands relais. Faut prendre les choses comme elles viennent. Hein, C'est comme ça et on va voir. On ne peut pas débriefer comme ça à chaud, mais en tout cas, on a des maximums.
Julien Alaphilippe pointe ce soir à 31 secondes du leader, le maillot jaune Mike Tennyson, Thomas.
Et dans la course au classement final, Thibaut Pinot est le Français qui s'en est le mieux tiré.
Oui, huitième du chrono avec son équipe à seulement 12 secondes de Thomas et Bernal. Malgré les chutes de Gaudu et Ladanius dans le dernier kilomètre, une très très belle performance pour le Franc-Comtois.
Bah, le sentiment il est bon, c'est ce qu'on voulait. On savait très bien où on se situait, nous. On avait une équipe homogène, donc on sentait de toute façon qu'on était dans l'allure. Pour vous, c'était inespéré, mais pour nous, on savait très bien qu'on était capable de réaliser une belle perte. Donc nous, on n'est pas surpris. C'est sûr que tout le monde nous voyait perdre presque une minute, je crois. Donc nous, on savait qu'on était capable de faire bien.
La mise au point de Thibaut Pinot qui a limité les écarts, tout comme Nibali, les frères Yates, le Danois Fuglsang, qui croisent tous à une vingtaine de secondes de Geraint Thomas. Il a fait beaucoup mieux, Thibaut Pinot, que le Colombien Quintana, l'Italien Aru, l'Espagnol Landa, pointé à 50 secondes des coureurs d'Ineos, et beaucoup mieux aussi que son compatriote Romain Bardet, 19e sur 22 dans ce chrono par équipe. L'Auvergnat a lâché 59 secondes au vainqueur sortant du tour. Rien de décevant pourtant, si l'on écoute Vincent Lavenu, manager d'AG2R La Mondiale.
Non, mais nous on est plutôt satisfaits parce qu'on avait dit maximum un débord d'une 30. Je me rappelle l'un de vos collègues dont je tairai le nom m'avait dit « Je suis étonné, une 30, vous avez pas, en gros vous n'allez pas y arriver. On prend moins d'une minute, donc c'est plutôt une bonne chose, sans voir qu'il nous manque des rouleurs, hein, notamment comme Sylvain Dillier et Pierre Latour. On est dans cette source de progrès que l'on attend depuis un certain nombre d'années. Il y a encore un petit peu de boulot, mais on est plutôt satisfaits. »
Cette deuxième étape en Belgique a été marquée par une ferveur populaire impressionnante tout au long des 27 km du parcours, avec des spectateurs qui ont apprécié cet exercice si particulier du contre-la-montre à l'image d'Alain.
C'est chouette, hein, c'est vraiment bien et on s'est mis au bon endroit. On les voit bien, venir calmement récupérer un peu, quoi. Faut vraiment relaxer et tout. Hein. Parce qu'il y a, c'est ce que je disais aux dames, là, c'est un peu cruel. Hein. Ils ont tous fait le même parcours, il n'y a qu'un seul qui intéresse les journalistes. Dans chaque équipe, vous voyez qu'ils plongent tous sur un seul, quoi. Et les autres, c'est dur quand même.
Et demain, le Tour de France quitte la Belgique au départ de Binche en direction d'Épernay, 215 km avec un final accidenté favorable au puncher.
C'était Fabrice Rigobert en direct de Bruxelles.
Mais c'est dur hein, quand même le vélo. Allez, dans l'actualité sportive de ce dimanche également, le basket. Thomas, l'équipe de France féminine en finale du championnat d'Europe tout à l'heure.
Oui, ça commence à 20h30 à Belgrade en Serbie. Les Bleus affrontent l'Espagne. L'équipe de France est une habituée des finales européennes. Elle a disputé les trois dernières. 2013, défaite face à l'Espagne. 2015, défaite face à la Serbie. Et 2017, nouvelle défaite contre l'Espagne. C'est peu dire que les Espagnols sont favorites. On écoute le président de la Fédération française, Jean-Pierre Suita.
C'est une nation de basket, une nation fière, tout ça, qui joue très très bien au basket. On aime bien de temps en temps un jeune et puis un senior conjurer le sort et puis faire en sorte d'inverser la tendance. Après, on a des armes aussi, donc c'est vrai que au départ, on n'avait pas trop misé sur ce groupe parce qu'on a eu quand même des joueuses de cadre qui étaient blessées, qui ont déclaré forfait. On a voulu faire venir des jeunes qui sont la génération de 2024. Hein. Et au départ, on n'avait peut-être pas trop de repères, mais il y a une très très belle ambiance dans cette équipe. Elle nous surprend tous les jours, donc pourquoi pas, c'est ça le sport aussi. Peut-être qu'on aura d'ailleurs le public serbe avec nous ce soir, hein, puisque l'Espagne qui a battu éliminer la Serbie, donc on verra, il y a plein de choses, on le sent qu'il va se passer quelque chose, mais on va gagner ce soir.
Et pour vérifier tout ça, début du match dans une heure à Belgrade.
On part à Londres maintenant, tournoi de tennis de Wimbledon, jour de repos ce dimanche.
Oui, c'est une tradition à Wimbledon, on ne joue pas le premier dimanche du tournoi avant d'attaquer la deuxième semaine et les huitièmes de finale à partir de demain. Il y aura deux Français à suivre et c'est certainement Benoît Paire qui a les meilleures chances. Il sera opposé à l'Espagnol Roberto Bautista Agut parce que le deuxième Français, Hugo Humbert, 21 ans, affronte le tenant du titre et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Demain également en huitièmes de finale, Roger Federer joue contre l'Italien Berrettini et après deux matchs bien contrôlés, le Suisse a battu Lucas Pouille au troisième tour. Il est en confiance dans sa route vers un neuvième titre à Wimbledon.
Pour moi, honnêtement, ce match contre Pouilly, pour moi, c'était un peu un match de référence, de voir vraiment où j'en étais avec mon jeu, parce que je sais que Pouilly, il peut bien jouer, surtout meilleur de 5-7. Il est assez solide physiquement et aussi mentalement. Il a prouvé en Australie, il a montré aussi surtout à l'US Open il y a quelques années en arrière. Il peut faire des sacrés matchs. Les deux premiers, je savais que j'allais les contrôler. Celui-là, pas vraiment. J'ai bien joué, bien servi. Je restais calme dans les moments clés. Et si je peux continuer à ce niveau-là, je pense que ce serait une bonne chose. Ouais. Berrettini, il est vraiment en pleine forme parce qu'il a gagné Stuttgart sur gazon, demi-finale à Halle. Alors là, je l'ai vu jouer un peu. J'ai vu qu'il a une sacrée première balle, agressive du fond de court. Il est jeune, il y croit. Ça vient assez naturel pour lui, ce gazon. Alors je pense qu'il est très serein mentalement en ce moment. Et ça se le rend dangereux parce que la confiance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter au supermarché. Tu le mérites. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un bon match pour le battre.
Et demain sur les cours, il y aura aussi Raphaël Nadal qui joue contre le Portugais Souza. Dans le tableau féminin, plus de Françaises. La favorite, c'est la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty, qui sera sur le court demain contre l'Américaine Risqueux. Mais la sensation, c'est une autre Américaine, Corrie Goff, 15 ans, née en 2004, qui défiera l'ancienne numéro 1 mondiale, Simona Halep.
Allez, ça faisait plus d'un an et demi qu'il n'était pas monté sur un tatami. Teddy Riner fait son retour.
Oui, depuis son 10e titre de champion du monde en novembre 2017. Il a fait une pause, il s'est ressourcé, il s'est consacré à sa famille, c'est reparti. Il combat en ce moment même au Canada, à Montréal. Un grand prix qualificatif pour les Jeux Olympiques 2020. Il a déjà gagné 2 combats. La phase finale, ce sera vers 1h du matin, heure française. Teddy Riner qui explique à quoi lui sert cette compétition.
C'est un tournoi où il va y avoir pas mal de monde. Il va falloir se confronter, il va falloir aller chercher cette opposition qui est là et qui est présente. C'est pas le tournoi de l'année, c'est juste aller chercher ces gars-là, chercher les premiers points pour le quota, et puis prendre le maximum d'informations sur mon état sur le tapis, comment je me situe par rapport à la concurrence, et puis voilà, c'est se donner. Hein. C'est se donner, prendre du plaisir aussi. C'est important de se confronter pour savoir s'il reste des choses à bosser, si on est sur le bon chemin pour cette médaille d'or ou pas.
Oui, Teddy Riner. Et après Montréal, il décidera s'il participe ou non au championnat du monde à Tokyo. Rappelons que ça fait 9 ans que personne ne l'a battu.
La moto, GP pour terminer.
Oui. Nouvelle victoire cet après-midi pour l'Espagnol Marc Marquez. Il s'est imposé en Allemagne. Et puis, pour voir des Français sur la plus haute marche du podium, il faut regarder le triathlon. L'équipe de France mixte a conservé cet après-midi son titre de championne d'Europe. Ça se passait à Hambourg.
C'était le journal des sports de Thomas Coignac.